L'affaire Malgouir, meurtre dans le jardin préféré des Français, épisode 2. 17 octobre 2017, les gendarmes se mettent en route, direction Perpignan. Ça fait 12 jours qu'ils enquêtent et ça avance bien. Ils arrivent à destination, se garent et contournent la Mercedes de l'homme qu'ils viennent chercher. Les gendarmes sonnent à la porte. Vous êtes Richard Bruno ? Monsieur, vous êtes placé en garde à vue pour tentative de vol avec arme et violence aggravée. Après David Viers, les enquêteurs viennent donc d'interpeller le second cambrioleur. Ils l'ont identifié grâce à Sandra, la femme du premier, qui a assuré que son mari avait passé toute la journée du 5 octobre avec ce prénommé Richard. Et aussi parce qu'ils ont retrouvé sa cagoule avec son ADN au bord d'un parking au nord du domaine. Richard Bruno est né le 22 mai 1964 à Lunel, dans l'Hérault. C'est un gars du coin. Et lui aussi, c'est un joueur de poker. Il joue presque tous les soirs, sauf le lundi. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec David et ils sont devenus amis. Au début, devant les gendarmes, il fait le malin, Richard. « Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. » Et puis, une fois les preuves exposées les unes après les autres, Richard Bruno retrouve la mémoire. C'est vrai, il le reconnaît, il a mis une cagoule, il s'est rendu chez les Malgouir dans ce superbe jardin Saint-Adrien que je vous ai présenté dans l'épisode 1 pour les cambrioler. Il était bien avec David Viers et il s'est enfui après avoir entendu le coup de feu. Mais pour sa défense, le propriétaire était d'accord. Quoi ? Comment ça ? Bah oui, c'est Daniel Malgouir qui a eu l'idée. Cette histoire de cambriolage, c'est un coup monté. Les gendarmes n'en croient pas leurs oreilles. L'enquête prend soudain une toute autre tournure. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Fidèle d'Homicide, je sais que vous êtes très perspicace. Alors, laissez-moi préciser un point. Le Richard, qui est entendu par les enquêteurs, porte en effet le même prénom que le Richard qui buvait l'apéro chez les Malgouir une heure avant le cambriolage. Mais ce sont deux Richards distincts. D'un côté, il y a Richard Bruno, le joueur de poker et second cambrioleur. Et de l'autre, il y a Richard Liop, l'éleveur de chevaux, celui qui donne des cours d'équitation chez les Malgouir, leur ami. Attention, ne pas les confondre. Bon, alors revenons à l'interrogatoire de Richard Brunet. Comment ça, Daniel Malgouir était au courant ? Le cambrioleur raconte. La veille des faits, David Viers, son copain de poker, lui propose un plan, aller serrer des gens, dit-il. Le propriétaire est au courant, c'est lui qui organise tout. On récupère l'argent, on le remet au proprio, et après, on sera payé. Voilà le plan. Apparemment, explique alors David Viers à Richard, il veut voler l'argent de sa femme avant de la quitter pour sa maîtresse brésilienne. Ah bon, Daniel veut quitter Françoise. Stéphane Bern aurait sûrement du mal à le croire. Retournons un moment sur le tournage du jardin préféré des Français.
Hey, Daniel, je dois vous avouer que j'avais la larme à l'œil à la fin en regardant le reportage parce que c'est une belle histoire, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une passion. C'est l'histoire d'un amour, comme vous disiez aussi. Il y a besoin d'amour entre vous, évidemment, puis avec votre famille. Et, oui. Puis l'amour de cet endroit.
L'amour de cet endroit.
Voilà, et l'amour de cet endroit, mais il fallait aussi l'amour à deux. Et je te remercie, Françoise, de m'avoir accompagné dans l'aventure et d'avoir su un petit peu... c'est difficile.
Le Daniel de 2013, la gorge serrée, incapable de finir la déclaration d'amour à sa Françoise tellement il est ému, serait devenu en 2017 voleur, manipulateur et infidèle. Si oui, il a dû se passer quelque chose de très grave pour en arriver là. Et ce quelque chose, vous en avez déjà entendu parler. Plusieurs fois même, depuis le début de cette saison. C'est l'accident de cheval de Françoise. Voilà ce qui a tout changé. Nous sommes le 16 mai 2017, 5 mois avant le cambriolage. Françoise Malgouir monte à cheval sur la propriété en compagnie de Richard, l'éleveur, Richard Liop, quand soudain, c'est l'accident. Elle chute. Traumatisme crânien, fracture de l'orbite et paralysie faciale droite. Bilan, 12 jours de coma, elle a bien failli y passer. Si elle a survécu, c'est surtout grâce à Richard et à son ami Jean-Pierre. Il était présent ce jour-là et il a eu les bons réflexes, les gestes de premier secours. Et que s'est-il passé pendant l'hospitalisation de Françoise ? Eh bien, il se passe que Daniel est seul dans son petit paradis. Et finalement, il s'en passe bien de sa femme. Et puis, soyons honnêtes, il n'est pas tout à fait seul. Avec lui, il y a Yolanda, mais j'y reviendrai plus tard. Toujours est-il que Françoise revient, saine et sauve, à la maison. L'accueil est plutôt froid. Entre deux, tout a changé. Et elle trouve que ça sent fort le divorce par ici. Mais elle est prévoyante, Françoise. Alors elle se renseigne. Et elle découvre que même s'ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle, il y a une clause dans le contrat qui stipule qu'en cas de divorce, elle n'aura rien. Elle n'héritera du jardin que si Daniel meurt, pas s'ils se séparent. Voilà qui est bien embêtant. Elle n'a pas participé à l'achat de la propriété et elle n'est pas non plus déclarée comme travaillant dans le jardin. Si Daniel demande le divorce, elle va se retrouver le bec dans l'eau, Françoise. Et puis, elle fait une découverte surprenante. Derrière un meuble de la cuisine, il y a un courrier indiquant qu'elle donne procuration à son mari sur un compte d'assurance vie qu'elle détient au Luxembourg, alors qu'elle n'a plus mis les pieds dans ce pays depuis des années et qu'elle n'a jamais autorisé cette procuration. C'est ce qu'elle raconte aux enquêteurs. Et il y a encore autre chose. Comme Daniel est aussi un homme prévoyant, il accumule depuis des années des billets de banque dans des bocaux en verre qu'il planque dans la remise. Ça représente peut-être 100 ou 120 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Mais quand sa femme sort de l'hôpital, elle ne trouve plus ses bocaux. Ils ont disparu. Alors elle l'interroge. Daniel lui dit qu'il les a mis ailleurs et qu'il ne lui donnera rien, car c'est son argent à lui. Bon, alors Françoise décide d'agir. 1. Elle fait annuler la procuration sur son compte au Luxembourg. 2. Elle fait modifier leur contrat de mariage par le notaire pour obtenir la moitié du jardin en cas de séparation. Elles sont loin, les déclarations d'amour, devant les caméras de France 2. L'amour, Daniel le verrait bien avec Yolanda, 55 ans, employée polyvalente. Pour votre information, elle n'est pas du tout brésilienne, c'est une vénézuélienne, née en Colombie. Ça ne fait pas très longtemps que Yolanda travaille chez les Malgouir. Elle a été embauchée pour la saison 2017. Et après le retour de Françoise, les relations se sont tendues entre elle d'un côté et Françoise et son fils Olivier de l'autre. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé en l'absence de la maîtresse de maison, mais manifestement, et de façon tout à fait platonique, Daniel et Yolanda se sont rapprochés. Daniel l'aime bien, Yolanda. Il lui prête de l'argent, il l'aide à acheter une nouvelle voiture. Et ça ne plaît pas du tout à Françoise, tout ça. Le 10 août 2017, Yolanda est poussée à la démission. Et le 10 août 2017, Daniel Malgouir lui déclare sa flamme. Puis, quelques jours plus tard, il lui rend visite et il l'embrasse. Voilà comment démarre cette nouvelle histoire. Il lui offre aussi un bracelet et lui donne de l'argent, près de 6 000 euros, qu'elle tentera de lui rendre. Mais il insiste, cet argent, c'est pour elle. Mais cela va rendre fous Françoise et leur fils. Tous les deux tentent même de rentrer chez Yolanda pour récupérer les 6 000 euros. Olivier en viendra même aux mains avec son père. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. À la fin de l'été 2017, la situation familiale est donc très tendue. Mais Daniel rassure Yolanda, il veut refaire sa vie avec elle. Qu'elle ne s'inquiète pas, il va prendre des décisions. Et au mois d'octobre, certaines choses vont changer. Et le mois d'octobre, c'est justement le mois du cambriolage. Ça pourrait coller, se disent les gendarmes. En tout cas, il faut tirer cette histoire de commanditaire au clair. Rebelote. Le 18 octobre 2017, Daniel Malgouir est à nouveau interpellé et placé en garde à vue. Devant les gendarmes qui l'interrogent, le propriétaire du jardin préféré des Français est stupéfait. Lui, instigateur du cambriolage ? Mais ça n'a aucun sens. Et qui c'est ce Richard Bruno qui l'accuse ? Il ne le connaît même pas. Pas plus qu'il ne connaissait le cambrioleur qu'il a abattu d'ailleurs. Non, vraiment, ils ne sont pas sérieux. Mais alors, comment Richard Bruno savait-il tout ça ? Questionnent les enquêteurs. Daniel est en effet obligé de le concéder. Il est quand même bien renseigné, ce Richard. Il sait que Malgouir veut quitter son épouse. Il sait pour Yolanda sa maîtresse. Il sait aussi qu'Olivier, le fils, a été violent physiquement avec son père. Et il sait que des billets de banque sont cachés dans les radiateurs de la maison. Tout ça, c'est vrai. Et il peut compter sur les doigts d'une main les personnes qui connaissent tous ces détails. Mais qu'il n'aille pas penser pour autant que le cambriolage, c'est lui. Il le jure. Les gendarmes sont bien embêtés. D'autant que Richard Bruno n'est pas une petite frappe. Il n'a rien à voir avec David Viers, le cambrioleur sanguin et en galère qui a été tué par Malgouir. Non, Richard, c'est un homme calme, posé, un vrai bon joueur de poker. Il connaît bien l'art du bluff. Peuvent-ils vraiment lui faire confiance ? Alors, les gendarmes poursuivent la garde à vue et cherchent à coincer Daniel sur autre chose. Lors d'une nouvelle perquisition, ils ont découvert toujours plus d'argent caché. Bon, les 6000 euros qu'ils ont trouvés dans une housse de robe de mariée, ok, ça, c'est peut-être anecdotique. Mais les 95 000 euros en liquide, découverts dans des bocaux en verre, enterrés dans le jardin, en lisière de route, ils ne pouvaient pas les donner au cambrioleur pour qu'il se calme et s'en aille ? Plutôt que d'attendre que sa femme ouvre son coffre ? Daniel répond qu'il n'y a pas pensé. Ou plutôt, si, mais l'argent était loin. Et puis, il s'est dit que, puisqu'ils allaient mourir de toute façon, autant sauver cet argent. Sauver tous les billets qu'on a enterrés dans le jardin plutôt que sa peau ? Étonnant. Mais il est comme ça, Daniel. Il aime bien avoir beaucoup d'argent et pas trop le dépenser. Ça le rassure. Il a mis longtemps à avoir une situation. Alors maintenant, il se couvre. À la fin de sa garde à vue, Daniel est présenté au juge d'instruction qui, en plus de sa mise en examen précédente pour homicide, le met en cause pour complicité de tentative de vol à main armée. Mais ce qui ennuie profondément les gendarmes, c'est qu'ils ne trouvent absolument aucun lien entre Daniel Malgouir et les deux cambrioleurs. Aucun appel téléphonique, aucun lieu de fréquentation commun où ils auraient pu se rencontrer. Pour organiser le faux cambriolage de sa propriété, il faut bien se parler, à moins qu'il y ait un intermédiaire, se disent les enquêteurs. Alors, ils reprennent tout. Ils épluchent les relevés de bornage téléphonique sur toute la journée du 5 octobre 2017. Ils essayent de faire parler les éléments dont ils disposent. Ils ne savent pas trop ce qu'ils cherchent, si ce n'est une logique à toute cette histoire. Et cette aiguille, dans une botte de foin, les gendarmes vont la trouver. Quand vous êtes quelque part, votre téléphone vous trahit. Vous le savez. Il déclenche une borne réseau qui donne une idée plus ou moins précise du lieu où vous vous trouvez. Et bien ce jour-là, avant le casse du soir, les téléphones de David Viers et de Richard Bruno bornent dans le Gard, à plus de 100 km de Servian, où se trouve le jardin des Malgouir. Les deux hommes vadrouillent toute la journée. Et donc, leur téléphone déclenche plusieurs relais téléphoniques dans ce département. Et notamment, le relais situé à Aubé. Aubé, ça leur dit quelque chose aux enquêteurs. Aubé. Mais oui, Aubé, dans le Gard. C'est là que se trouvent les écuries de Richard. Richard, l'éleveur de chevaux. Richard, l'ami intime des Malgouir. Richard Léop. Se pourrait-il qu'il soit impliqué lui aussi ? C'est vrai qu'il est partout, ce Richard. Lors du premier cambriolage, ils sont chez lui, les Malgouir. La chute de cheval de Françoise, c'est encore chez lui. Et une heure avant le cambriolage d'octobre, c'est lui qui boit l'apéro dans la maison de Saint-Adrien. Les gendarmes ne trouvent pas non plus de contact entre lui et les deux malfaiteurs. En revanche, ils découvrent que Richard Yop a un bon ami dans leur entourage, Jean-Pierre Bruno, le père de Richard Bruno. C'est aussi le même Jean-Pierre qui a fait les gestes de premier secours sur Françoise le jour de son accident de cheval. C'est mince tout ça, mais c'est tout ce qu'ils ont. Alors, ils poursuivent ce travail de fourmi. Et en mettant en commun le bornage téléphonique de ces quatre personnages, les enquêteurs réalisent qu'un jour, les deux Richard, Jean-Pierre Bruno et David Viers, se sont retrouvés au même endroit, à l'heure du déjeuner, au bar des Arènes, à Aigues-Vives. Et pas n'importe quel jour, le 5 octobre 2017, le jour du cambriolage. Les gendarmes formulent donc une nouvelle hypothèse de travail. Un vol de maison commandité par le propriétaire lui-même, par l'intermédiaire de son meilleur ami, Richard Liop, lui-même organisateur des faits auprès des cambrioleurs. Ça tient la route. Le 23 novembre 2017, le parquet ajoute à la saisine du juge d'instruction les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Alors, qui est vraiment Richard Liop ? Un vrai bon ami de Françoise ou un traître ? Je vous le présenterai lors de sa garde à vue dans le prochain épisode de l'affaire Malgouire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.